Bonjour à tous et bienvenue sur Positron, l'émission qui vous fait un zapping de bons plans tellement excellent que vous n'aurez plus jamais le temps de vous ennuyer. Bonjour à tous et bienvenue sur Positron. Positron, c'est l'émission où on vous recommande 3 trucs cool en 20 minutes. On parle de musique, de séries, de ciné, de livres, de jeux vidéo, de tout plein de choses. Et aujourd'hui, c'est hélas, malheureusement, le dernier épisode de la session avec Marion et Vivian. C'est un au revoir que nous allons nous dire en fin d'épisode. Mais on a encore 3 recommandations à découvrir ensemble. Donc, on va pas commencer à être triste tout de suite. On va laisser pour dans 20 minutes.
Mais non, il faut encore en profiter là.
Oui. Puis on va terminer en apothéose.
Oui, j'espère. Tout à fait. J'espère. Bon, puisque vous êtes en forme, puisque vous êtes plein d'énergie, je vous propose qu'on ne dise rien de plus dans cette introduction et qu'on commence le cœur de l'émission avec la recommandation d'une série que j'ai découvert à la fin de l'année dernière, puisqu'elle était disponible depuis le 12 décembre sur Netflix. Et c'est une série qui a un petit peu mauvaise presse, j'ai l'impression.
Oui,
tu confirmes, Vivian ?
Oui, je confirme. C'est pour ça que ton avis m'intéresse. Parce que je ne l'ai pas regardé, du coup.
Ah oui, moi, je l'ai vu, par contre.
D'accord. Ah bah, on va pouvoir en discuter. Parce qu'en fait, c'est la série Marco Polo, qui est produite par Netflix. Et évidemment, si j'en parle dans Positron, c'est qu'elle est complètement pourrie. Non, évidemment, moi, si j'en parle, c'est qu'elle est très, très bien, que je l'ai beaucoup aimée. Et ça a été une vraie surprise parce qu'elle était effectivement... en fait, moi, je ne savais pas trop quoi en attendre. Je l'ai lancée comme ça avec ma femme. Un jour, on se disait, bon, on va tester ça, il paraît que c'est bien. Et puis, on aime bien les séries. Je vais oser le mot. On aime bien les séries un petit peu intelligentes et je crains que le manque d'action, en fait, et puis l'environnement lui ait donné son image un petit peu chiante, alors qu'en fait, pour moi en tout cas, pour notre goût, à ma femme et à moi, c'était des vraies qualités. Alors, ça parle de Marco Polo, qui est évidemment un explorateur italien du XIIIe siècle, qui a passé un bon moment de sa vie à la cour de Kublai Khan, qui était le petit-fils de Gengis Khan. Et du coup, on s'est un petit peu immergé pendant 2 jours dans la... Enfin, pendant une petite semaine dans l'univers des Mongols et de l'Empire mongol qu'on connaît un petit peu de loin comme ça, mais qui est encore plus intéressant et encore plus impressionnant que ce qu'on en connaît souvent quand on regarde ça qu'en surface. Nous, on est descendu du coup à... Allez, un bon 3 mm en dessous de la surface. Mais c'est vraiment assez passionnant. Et puis, plus spécifiquement pour parler donc de cette série, c'est une série qui se situe entièrement à la cour donc de Kublai Khan, à 99%. Et ça suit les aventures et l'histoire de Marco Polo et de Kublai Khan et de donc son invasion du sud de la Chine, ou ses tentatives d'invasion du sud de la Chine. On le sait, Gengis Khan a eu le plus grand empire, l'empire mongol était le plus grand empire continu au monde. C'est vraiment un empire incroyable auquel on ne pense pas souvent quand on pense aux empires les plus puissants de notre histoire. Et Kublai Khan règne donc sur cet empire avec une puissance énorme. Et en même temps, ce que j'ai beaucoup apprécié dans la série, c'est que plusieurs choses. D'une part, Marco Polo est le seul blanc de la série, et il est même pas américain. Il a un petit accent italien. Bon, c'est un beau gosse quand même. Hein, c'est un gosse beau, mais il n'empêche, la série est entièrement faite avec des Mongols, des Arabes, des Chinois. Toutes ces cultures sont mélangées, et donc c'est juste à saluer le fait que c'est ils ont pas fait de détour facile, quoi. Ils se sont pas dit ah oui, bon, ok, c'est quand même en Orient, mais pour que ça soit un petit peu plus digeste pour le public occidental, on va essayer de changer un petit peu les trucs, mettre plus de blanc pour que ça soit plus qu'il soit plus facile de s'identifier avec les personnages, ce qui aurait été bon un petit peu facile,
c'est le cas,
mais compréhensible
pour Exodus, par exemple. Exodus, le film, oui, c'est un débat qu'il y a eu,
ouais,
c'est
tout
à
fait,
ça que,
ouais,
tu fais référence.
Non, c'est pas ça spécifiquement, c'est d'une manière générale sur la question de remplacer les gens, bien sûr, mais aussi même le cadre, c'est assez frappant comme on se rend compte qu'on n'a jamais ou très rarement des séries qui sont vraiment dans un univers qui sort complètement de notre culture, mais complètement, sans que ça soit juste de la science-fiction, tu vois. Et même dans la science-fiction, on a souvent des trucs qui nous ramènent à ce qu'on est, nous, dans notre culture à nous. Là, on en sort complètement, et en plus, une autre truc qui est hyper appréciable, c'est qu'il réussit à faire cohabiter la barbarie de cette culture, qui est évidemment extrêmement violente, hein. On a des attitudes, des lois, des punitions qui sont choquantes, mais en même temps, il y a une administration, une sagesse, une droiture qui sont vraiment omniprésentes, quoi, qui règlent toute la vie de cette cour et de cette culture, et on se rend compte que tout ça est vraiment cohérent. Il y a Kublai Khan a un problème et qu'il demande à ses conseillers de le conseiller, c'est pas l'image qu'on pourrait avoir du tyran dictateur où on a peur de parler, on a peur de dire ce qu'on pense, de peur que voilà, c'est le méchant et il va condamner n'importe qui à mort pour un oui ou pour un non. Non, c'est il y a les conseillers qui se lèvent, qui disent ce qu'ils pensent, qui expliquent pourquoi ils pensent que ceci ou cela, et puis ils respectent la décision des autres. C'est un petit peu, bon, évidemment, c'est une série télé, mais c'est un petit peu le genre d'attitude dont on se dit que on pourrait y bénéficier, en bénéficier dans nos assemblées nationales, tu vois. C'est quelque chose de complètement presque inédit, quoi. De la même manière que on se dit, j'exagère un peu et la comparaison est tirée par les cheveux, mais de la même manière qu'on se dit dans À la Maison Blanche, on voudrait que les gens qui nous dirigent soient comme les personnages d'Aaron Sorkin, hein, la série À la Maison Blanche que j'aime beaucoup, et ben on se dit que là, ça serait pas mal que les gens au pouvoir ou en place avec des responsabilités aient autant de sagesse et de maturité politique que ces gens-là, que cette cour.
Il faut dire que l'acteur qui joue Kublai Khan a un charisme incroyable. Il est excellent, cet acteur. Il joue très 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 bien, et on peut pas dire autant de peut-être de tous nos politiques. Enfin, là, j'exagère, mais c'est vrai qu'un acteur, c'est un vrai avantage quand il a du charisme. Un politique, c'est pas ce qu'on lui demande en premier.
C'est sûr, c'est sûr.
Mais ça en fait partie quand même.
Mais en fait, attends, je vais retrouver le nom de cet acteur, c'est Dominique Wong, je crois, je sais plus. Mais il est effectivement super super bon, et je sais pas si t'as vu, mais c'est Benedict Wong, pardon, Benedict Wong. Et en fait, il est super maigre, et dans la série, il a dû prendre du poids. Enfin, c'est le genre de transformation incroyable qui est très impressionnante. Et effectivement, il a un énorme charisme. Et un autre truc que je voudrais dire, c'est que Marco Polo, enfin, l'écriture est super intelligente, c'est-à-dire que là encore, il n'y a pas de grand méchant ou de grand gentil. Au début, il y a un grand méchant qui finalement est un petit peu plus... on comprend un petit peu plus sa personnalité au fur et à mesure que la série se développe. Ça reste le personnage le plus binaire de la série, mais quand même. Et puis surtout, c'est hyper bien écrit. Il cède jamais à la facilité. Marco Polo, qui suit une éducation des nobles mongols, c'est-à-dire qu'il est initié à la culture chinoise, à la calligraphie, au kung-fu, etc., c'est pas parce qu'il fait du kung-fu que tout à coup il faut qu'il y ait le combat où Marco Polo est super fort, tu vois. Il apprend du kung-fu pendant plusieurs mois, plusieurs années, donc il peut donner quelques coups de poing, mais c'est pas que tout à coup il se transforme en Jean-Claude Van Damme, tu vois. Alors qu'on pourrait se dire que dans ce genre de série, ça pourrait, quand je dis tu vois, je parle à toi, auditeur, hein, je tutoie, tu vois, camarade auditeur. mais c'est vraiment il cède jamais, j'ai l'impression qu'il cède jamais à la facilité, et c'est tellement rafraîchissant. Et pourtant, à côté de ça, il y a des personnages hyper forts et tout le monde fait du kung-fu de manière incroyable. C'est presque un film de kung-fu par, enfin, une série de kung-fu par moment. Et il y a ce personnage invraisemblable du vieux maître aveugle qui se bat mieux que tout le monde réuni. Donc il y a ces éléments un petit peu de fantasy, d'histoire fantasmée, de contes racontés par un petit peu par les yeux de Marco Polo et puis de quelqu'un qui aurait raconté ce que Marco Polo lui avait raconté. Et donc les choses se déforment un petit peu. C'est un mélange vraiment réussi qui est délicieux à mon sens et qui fonctionne vraiment. Il y a quelques scènes de nudité un petit peu gratuites par-ci par-là, mais même ça, au final, ça devient jamais vraiment gênant. C'est pas comme dans certaines séries où on sent que c'est là juste pour le principe. Et puis qu'évidemment c'est toujours les filles qui sont à poil et pas les mecs, mais et pas autant les mecs, on va dire. Mais même ça, finalement, au fur et à mesure que la série évolue, c'est plus tellement un problème. Donc, j'ai presque l'impression que c'est une série quasiment parfaite. Elle plaira pas forcément à tout le monde, mais moi, je la conseillerais à tout le monde. Le seul truc qui, je pense, pourrait faire qu'elle ne plairait pas à tout le monde, c'est un petit peu une série lente, c'est un petit peu une série plus sur la diplomatie et sur la vie et les décors sublimes, les images sublimes. Chaque décor est un tableau, quoi. Chaque paysage est un tableau. Et c'est un petit peu plus... C'est le rythme, peut-être, qui pourrait faire que ça plairait pas à tout le monde, mais moi, je l'adore vraiment, quoi. J'espère que tu l'aimes bien aussi, Marion, sinon j'ai passé 2 heures à...
c'est marrant, moi, je l'ai pas vraiment vécu de cette manière-là.
Bon, en gros, tu trouves que c'est pourri, quoi.
Alors non, non. Mais je pense qu'il faut la regarder d'une certaine manière. C'est-à-dire que moi, je la compare à The Tudors version Empire mongol. Mmh. C'est-à-dire que bah voilà, vous avez des beaux acteurs. Genre le premier rôle, il est insupportable, quoi. C'est le beau
Marco
gosse
Polo,
par définition. Oui, oui.
Ah oui, il est beau gosse, mais bon, pourquoi insupportable ?
Il a aucun charisme. Il est plat, c'est le petit minet par excellence. Alors moi, alors quand j'ai vu l'acteur, malheureusement, c'est vrai que j'étais déjà dans une mauvaise... tu vois, j'étais pas disposée à bien regarder la série, déjà. D'accord. Parce que le premier acteur, il m'insupporte. Après, il y a
des seconds
rôles.
Mais bon, en même temps, il
n'est
pas important il n'est pas si
voilà,
important dans la série.
C'est ça,
quoi.
C'est ça. C'est qu'il ne faut pas s'arrêter aux premiers épisodes. Il faut continuer à regarder la série et essayer de faire fi des scènes de sexe gratuites. Et bien sûr, c'est les nanas à poil, des combats des nanas qui sont à poil. Enfin, voilà.
Il y en a une.
Ah oui, il y en a. Oui,
mais elle est très à poil, c'est vrai. Elle est souvent
voilà,
à poil.
Voilà, c'est ça.
Ouais. Elle a l'air très intéressante, cette série. En fait.
Les filles seront un peu plus mitigées, peut-être. Ouais, mais en tout cas, il y a ce côté un poil kitsch qu'il faut bien avoir, dont il faut bien avoir conscience. C'est-à-dire que bah voilà, le rôle principal, là, il est très beau gosse. Il y a beaucoup de nanas et de scènes. Enfin, il y a beaucoup. Il y a quelques nanas et des scènes de cul, enfin voilà, ou dénudées. Et il y a le grand chef aveugle qui enseigne le Kung Fu, ça fait partie du folklore entre guillemets, mais passé ça et surtout c'est surtout au début des épisodes, enfin les premiers épisodes où on voit pas mal ça. Après les paysages, c'est très bien filmé, les paysages sont magnifiques, les seconds rôles sont excellents, les relations entre les différentes peuplades mongoles et les différents clans, le frère de Kubilai Khan les autres, les relations entre chacun est très très intéressante, les liens qui essayent de tisser aussi. Les différents fils de Kubilai Khan sont très intéressants. Il y a tout cet aspect-là, c'est ce qui rend la série passionnante, en fait. Malheureusement, l'autre point, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnages et il n'y a pas beaucoup d'épisodes, quand même. Et du coup, on n'a pas le temps de fouiller autant chaque personnage. Et du coup, il y a des personnages qui sont naturellement très intéressants et il y en a d'autres qui sont un peu caricaturaux, notamment le méchant, qui certes, on essaye de justifier un petit peu ses actes, mais on ne prend pas autant peut-être le temps, surtout au début. On a l'explication un peu plus tard.
Ouais. Et on prend au début, il est très caricatural. Ouais.
C'est ça, voilà. Au début, il est vraiment caricatural. Et du coup, ça pousse à la rigolade, alors qu'en fait, on essaie de le justifier un peu par la suite, mais on prend peut-être pas assez le temps parce qu'on n'a pas le temps. Il y a trop de personnages. Mais c'est ce qui fait aussi la force de cette série. Donc peut-être que le manque de nombre d'épisodes ou le fait qu'il y ait beaucoup de personnages intéressants qu'on essaye de fouiller. Mais voilà, moi, je trouve que c'est une bonne série à binge-watcher, c'est-à-dire à regarder d'affilée. Parce que du coup, quand on est dans l'univers, on est vraiment dépaysé. C'est quelque chose qu'on ne connaît pas, tu l'as dit Patrick, c'est assez inédit. Et on a vraiment des acteurs authentiques. Mais par contre, à regarder un épisode par semaine, bah là, le rythme, vous allez le sentir, il est un peu, enfin, il est pas très soutenu. Ouais. Donc là, ça va plus poser problème. Et les aspects kitsch vont peut-être encore plus vous freiner si vous mettez plus de temps à regarder les épisodes. C'est vrai que Jérôme et moi, on l'a regardé comme toi, hein, de la même manière, très très vite. Et du coup, on est resté dans l'attente de savoir qu'est-ce qui allait se passer, les dénouements politiques, comment ça allait se résoudre.
Le deuxième. La fin, justement, et dire qu'il n'y aura pas, peut-être pas de deuxième saison, c'est horrible.
Ouais, complètement, complètement. À la fin de la première saison, on est complètement conquis et on fait fi des quelques défauts qu'il y a, en fait.
Ah, ça me fait plaisir que tu aies effectivement la même conclusion au final, parce que c'est vrai que moi, je reste sur la fin. Et c'est jamais complètement mauvais, hein, je crois. Mais c'est vrai qu'au début, c'est peut-être un petit peu moins envoûtant que quand on arrive à la fin. Et bon, il y a quoi, 10 épisodes, donc ça vient assez vite quand même. Mais,
Oui. D'accord. Ça vient trop vite. En fait, à la fin, on a vraiment envie que la série continue. Oui. Alors qu'au début, on est un petit peu freiné par les quelques défauts qu'il y a. Mais continuer, persister, parce que 10 épisodes, ça passe vraiment vite.
Très bien. Bon, donc c'est Marco Polo sur Netflix, hein, Netflix 10€ par mois, qui pour le coup, rien que cette série, moi je trouve que ça les vaut au moins pour essayer une fois, quoi.
Ouais.
Voilà, ça s'appelle donc Marco Polo. Écoute, tu vas garder la parole du coup, Marion, et tu vas nous parler de ta recommandation.
Bon, du coup, je continue à parler, vu que je suis lancée. Donc moi, je vais vous parler d'un album de musique. Alors, comme j'avais pu le dire quand Vivian avait parlé d'Agnès Obel, je ne suis pas a priori très, très fan des voix féminines ou des artistes féminines.
Ah oui, parce que souvent,
Tu te souviens. Je suis souvent un peu freinée par les chansons d'amour, les femmes en colère contre les hommes, les petites ballades langoureuses, etc. Ça me fatigue. c'est pas ma passion. Je caricature, hein, évidemment. Et en fait, là, je fais un effort, j'essaie de m'intéresser un petit peu plus aux artistes féminines actuelles. Et j'ai fait la découverte en 2014 d'une artiste qui s'appelle Saint-Vincent, ou Saint-Vincent. C'est son pseudo, normalement, elle s'appelle Annie Clark. Et elle a sorti un album du même nom, de son pseudo, Saint-Vincent. Et en fait, ça a été vraiment ma découverte de 2014, en fait. C'est un album. C'est une artiste qui. Elle a participé au groupe Polyphonic Spree. Elle a travaillé avec Sufjan Stevens. Elle a fait les premières parties d'Arcade Fire, de The National. Donc, pour ceux qui connaissent certains des artistes, c'est plutôt le monde indépendant, les artistes indés. Elle a vraiment cette racine d'expérimentation musicale. Donc, il faut être un petit peu curieux. Elle a vraiment réussi à combiner le monde indépendant avec des expérimentations musicales, avec des chansons pop, rock, faciles d'accès. Et donc, ça permet vraiment cet album-là, le dernier album de 2014 qu'elle a sorti, est vraiment la parfaite combinaison des deux aspects. Le monde indépendant, qui peut être parfois déroutant, déstabilisant, et le monde de la pop et du rock, qui sont beaucoup plus accessibles. Elle a réussi à faire un vrai beau mélange de ces deux mondes. Et donc, il y a des chansons qui démarrent de manière assez classique et au milieu vont prendre un nouveau détour. On a un peu retrouvé ça aussi dans le groupe de Paul McCartney là, avec Born on the Run. Ah mince, j'ai un trou.
Alors là, je peux pas te
dire. Les Wings.
Ah oui.
C'est les Wings avec sa femme. Et il y avait des chansons qui étaient en fait composées de plusieurs chansons. Mais vraiment, qui changeait de rythme, etc. Là, c'est un peu moins le cas, mais il y a quand même des expérimentations et des chansons qui ont vraiment deux parties, toutes les deux super et qui s'entremêlent très bien. Et c'est ce que j'aime vraiment chez elle. Elle a vraiment, elle joue de multiples instruments.
Bah, tu sais quoi, je vais essayer de passer un petit morceau. Alors, je vais faire une petite manipulation. Si jamais tout explose, je suis désolé. On va voir si ça marche. Alors, parce que j'ai des petits problèmes.
Boum,
non, ah. Alors, tac, hop, non.
Ouais,
Voilà, donc là, je vais laisser le morceau continuer. Je vais baisser un tout petit peu. Si tu veux continuer ta description, Marion.
Je continue. C'est... Alors, tout en dansant derrière mon micro. vraiment, voilà, j'adore. Donc là, c'est un morceau très entraînant, mais il y a vraiment un peu tous les tons dans l'album. Il y a des chansons qui sont plus douces. Il y a des chansons qui sont plus épurées. Parce que, quand même, sa marque de fabrique, c'est quand même la sophistication, parce qu'elle joue de nombreux instruments. Et surtout, elle aime faire les arrangements de ses albums aussi. Elle y participe. Donc c'est vrai qu'on a des chansons et un album très sophistiqué et très travaillé, mais on a quand même quelques titres très épurés. Et donc j'avais un petit peu peur de voir aussi comment ça allait se passer en live, parce que voilà, il y a beaucoup de travail, d'aspects électroniques, etc. sur certains titres. Et elle a une personnalité très très originale. Si vous êtes curieux, vous pouvez aussi regarder la pochette de l'album, où elle a voilà les cheveux un petit peu roses dans une composition très graphique, très sympa.
Je vais le mettre dans comme illustration de l'épisode, comme ça vous pourrez voir.
Ah super. Merci. Et donc voilà, j'ai eu la chance en fait de la voir en concert intimiste sur le plateau de l'album de la semaine à Paris. Voilà, c'est des sessions un peu gratuites au public, et du coup je m'y suis déplacée parce que j'étais très très curieuse de la voir faire ses performances en live. Et pour le coup, on peut vraiment vraiment parler de performance, parce qu'en fait pour vous dire, normalement quand il y a un groupe ou quand il y a un chanteur qui vient chanter, il y a ses musiciens derrière. Sur l'album de la semaine, ça marche comme ça. Donc on est vraiment en condition de live de concert. Et là, en fait, elle était toute seule sur une espèce... Elle avait réussi à ramener un bout de décor. Alors, je ne sais pas si c'était juste le décor qu'elle a dans tous ses concerts, ou là, elle avait juste ramené une partie du décor, parce qu'en fait, c'était une espèce de petite estrade avec des petits escaliers, un peu comme sur la pochette de l'album. Et donc, en fait, elle a bougé durant toutes ses chansons. Sur certaines, elle a joué de la guitare, et sur d'autres, sur la plupart, elle faisait juste l'interprète. Et elle a vraiment interprété, dans tous les sens du terme, les titres de son album. Et donc, elle les a fait vivre en faisant des espèces de petites chorégraphies durant le titre. Il y a un moment donné, donc l'estrade avait des petites marches. À un moment donné, elle s'était mise tout en haut et elle a descendu les marches en se roulant une à une, tout en continuant à chanter.
En se roulant ?
Oui, en roulant, en descendant chacune des marches.
D'accord.
Et ouais, ça peut paraître un peu fou, mais en fait, quand on était dedans...
Qu'est-ce qu'elle faisait alors aussi, c'est ça, hein?
Très léger. Et donc ça peut paraître un peu dingue et un peu ridicule, mais en fait ça passait tellement bien dans son univers. Elle joue pas non plus la comédie, c'est pas surjoué ou avec plein d'effets spéciaux, parce que c'est pas son univers non plus, mais elle a vraiment elle interprète ses titres dans ce sens-là, et elle a une voix qui a pas mal de tonalités différentes, et elle arrive à la manipuler de manière assez impressionnante, vraiment. Donc à découvrir pour tout le monde. Il y a des chansons qui sont plus faciles d'accès que d'autres, mais vraiment ça vaut le coup, et il y a vraiment des petites perles très très belles. Et voilà, elle a fait précédemment, elle avait sorti un album avec l'artiste David Byrne, qui a fait partie des Talking Heads, pour ceux qui connaissent. Donc voilà, elle a un univers varié, coloré, original, mais qui est quand même facile d'accès, et c'est ce qui fait sa grande force quand même. Voilà.
D'accord. Écoute, effectivement, ça a l'air, je dirais, intriguant, parce que c'est le genre de musique dont je me dirais c'est pas forcément mon truc. Et puis en fait, en écoutant ce morceau, ça m'a...
Ouais, c'est entêtant.
Ouais.
C'est
entêtant. Ouais, tout à fait.
Il y a pas mal de morceaux qui sont vraiment faciles d'accès. Après, il y en a d'autres qui sont plus expérimentaux, mais sur cet album, c'est pour ça que je le conseille, c'est le plus facile. Et vous aurez des... Pareil, comme je disais pour Flight of the Conchords, vous aurez des petites mélodies qui restent en tête. Et voilà, vous surprenez à gigoter, à vous agiter sur votre siège, parce que ça donne envie de danser.
D'accord.
Voilà.
Super, donc ça s'appelle Saint Vincent. Donc c'est son nom, son nom de scène, quoi. Saint
Vincent. C'est son nom de scène, et c'est le nom de l'album aussi.
Oui, effectivement, éponyme. Merci Marion. À toi Vivian.
Alors j'ai noté, Patrick, que tu aimes les séries intelligentes. Ça tombe bien.
C'est une... Oui, quoi, tu vois, contrairement aux ceux qui aiment les séries débiles, hein, je suis quelqu'un de qualité.
Ouais.
Quoi.
Ouais. Et bien, ça tombe bien, c'est une série intelligente, et j'ai envie de dire un petit peu exigeante aussi, mais c'est pour ça que j'avais envie aussi d'en parler. C'est une série diffusée sur HBO aux États-Unis, et qui a été diffusée sur OCS City en France durant l'été dernier et qu'on peut retrouver bien sûr en VOD. Il s'agit de The Leftovers et j'avoue que j'ai été assez surpris en parcourant un petit peu tous les épisodes précédents de Positron que vous n'en avez pas encore que vous n'en ayez pas encore parlé en fait. J'ai vu que vous avez parlé de The Newsroom, je comptais en parler, mais j'ai vu que tu en avais déjà parlé, Patrick, donc je me suis...
Mais j'ai failli parler de The Leftovers, moi, pour ce
positif. Ah, bah tu vois.
Tu m'as devancé.
Et j'ai vu aussi que, je crois, Jérôme avait parlé de Halt and Catch Fire, qui est aussi une excellente série, mais j'ai envie de dire qu'avec Halt and Catch Fire, The Leftovers est la meilleure nouveauté en termes de série de l'année précédente, d'accord, l'année 2014.
Bah, moi, j'ai regardé Halt and Catch Fire de genre 2 ou 3 épisodes et j'ai pas adoré. Donc, ça commence pas bien.
Il faut persister.
D'accord.
Alors là, en l'occurrence, il faut aller au moins jusqu'au 3e épisode. Je vais expliquer pourquoi. Okay. Alors, ça nous parle de quoi, The Leftovers ? En fait, le pitch de base est assez intéressant. 2% de la population mondiale, ce qui fait environ 140 millions de personnes, disparaissent subitement sans la moindre explication.
Ah, je crois que j'en ai entendu parler. Ouais.
Ravissement. Voilà, c'est un événement mondial. D'un seul coup, il y a 2% de la population mondiale qui disparaît tout en même temps, là, comme ça, pouf, disparu. Ça passe un 14 octobre, une date qui est marquante dans la série. Et la série se déroule justement 3 ans plus tard, dans la petite ville de Mapleton, aux États-Unis. Et donc justement il prépare ce 14 octobre une cérémonie voilà un peu commémorative et elle est organisée et le shérif Kevin Garvey donc qui est le personnage principal de la série doit assurer la sécurité de l'événement. Lui d'ailleurs s'oppose à cette commémoration parce que justement il craint des débordements à cause notamment d'une secte de fumeurs muets vêtus de blanc.
Alors, de fumeurs muets vêtus
c'est
de blanc.
Exactement ça.
C'est-à-dire qu'il y a une secte qui est née de cette de disparition de 2% de la population mondiale.
J'ai presque envie que t'en dises pas plus parce que c'est tellement.
Il pourra pas en dire plus. Hein.
D'accord.
Je pourrais pas. Non, pas beaucoup. Mais voilà, c'est des gens qui sont habillés en blanc, qui ne parlent pas, qui ont fait le choix de ne pas parler et qui fument. Voilà, qui fume.
Mais qui fume genre de la marijuana ou...
Non, une cigarette, voilà, qui fume. Et ils ne parlent pas, ils ne parlent qu'en écrivant sur des feuilles.
Même entre eux,
ils ne, voilà.
Tu sais quoi, c'est comment dire, c'est une série dont j'ai entendu parler et sur laquelle je ne me suis pas penché parce que il y a beaucoup de séries qui ont comme ça des pitchs hyper intéressants en théorie et a priori et dont tu te dis ah ouais ça c'est marrant genre Under the Dome, les 4400, les The Event, tout ça c'est des trucs où tu te dis
ouais c'est pas du tout zéro.
Alors, au final ça ça suit pas la promesse de départ quoi.
Under the Dome, j'ai été terriblement déçu par cette série que je l'ai arrêtée au bout de la première saison. J'ai vraiment lutté pour aller jusqu'au bout. Là, ça partait un peu comme ça. C'est-à-dire que les 2 premiers épisodes de la série, tu te dis « Ouh là là, dans quelle direction ça va ?» Alors, c'est co-créé par Damon Lindelof, à qui l'on doit Lost.
Ben justement, c'est ça qui me fait peur, quoi. Et j'aime bien Lost, mais ça se perd aussi.
Alors, le truc, c'est que c'est basé sur un roman, si tu veux. Le matériel de base de The Leftovers, c'est un roman qui est paru en 2011 et qui a été écrit par Tom Perrotta, qui est associé à la série. Donc, c'est un gage, entre guillemets, justement, de stabilité, on va dire, et un petit peu de rail pour ceux qui ont peut-être suivi Lost et qui ont été déçus par Lost. Voilà, c'est un peu dans l'esprit de Lost, mais voilà.
Mais c'est bien, mais ça suit. C'est une série HBO en plus.
Alors, qui dit c'est HBO dit une écriture cinématographique, une image très visuellement très bluffante, très cinéma, très léché, etc. Ça dit aussi une atmosphère assez pesante, assez lourde parce que. Voilà, il se passe pas mal de choses dans cette série. Enfin, non, justement, il se passe pas grand-chose dans cette série, mais il y a des moments forts comme ça, avec des moments d'intense libération. Et enfin, voilà, c'est vraiment une série qui te prend aux tripes, alors qu'il ne se passe pas grand-chose. On ne sait pas trop ce qui se passe.
Mais c'est ça qui me fait peur, tu vois.
Mais on ne s'intéresse pas du tout à pourquoi ils ont disparu, qui sont-ils. Non, on met ça de côté et on s'intéresse à ceux qui restent. C'est The Leftovers.
Comment faire le deuil, en fait
Comment on passe à autre chose? Est-ce qu'on doit passer à autre chose? Est-ce qu'on doit se remémorer ça? Est-ce qu'on doit oublier? Et donc, c'est magnifique. Alors, ce qui est encore plus magnifique, je pense, dans cette série, et ça va faire le lien avec un précédent positron, justement, la musique est écrite par Max Richter, qui est le compositeur de musique de film de Valse avec Bachir. On en a parlé, justement, dans un précédent positron. C'est Marion qui en a parlé pour The Congress, je crois. On retrouve cet univers musical-là. Il a écrit aussi la musique de Shutter Island, de Scorsese, de Wajda, dont j'avais moi-même parlé dans un précédent positron il y a bien longtemps, maintenant. Et cette musique participe, une musique très mélancolique, très douce, au piano, comme ça, vraiment... participe un peu à une atmosphère mélancolique, est-ce que avec des grandes envolées de temps en temps et il y a plein de mystères, on aime jouer d'ailleurs avec nous sur ces mystères. Il y a quelques réponses qui sont apportées, mais pas forcément aux questions qu'on se posait, on va dire ça.
mais c'est terrible, parce que tu me parles de tous les trucs que je trouvais problématiques dans Lost et dans toutes ces séries, donc
l'intérêt principal, c'est les personnages. C'est les personnages sont vraiment admirables. Les acteurs jouent magnifiquement bien. Chacun a sa propre histoire et on adhère totalement à leur point de vue. Et on en apprend plus sur eux, en fait. Et on ne s'intéresse pas vraiment sur... on ne revient pas sur qu'est-ce qui est à l'origine de ces 2% de la population qui disparaît. On s'intéresse aux conséquences de ça. Et je trouve que c'est très intelligent parce que en plus, ça nous fait écho à plein de choses qui se passent en ce moment aussi sur la question de la foi, la question de qu'est-ce qu'on doit croire. Ça pose la question de la résilience, du pardon, de la culpabilité. Ça brasse vraiment des thématiques très larges. Alors, les détracteurs de la série disent que justement, ça tire vraiment vers le côté larmoyant, un peu américain, chrétien, très rigoureux, etc. Ça serait limiter la série à un discours trop catégorique et qui va bien plus loin que ça, justement.
Pour le coup, le personnage de Liv Tyler est super intéressant, justement, de trouver sa place.
Il y a Liv Tyler. Ok, c'est bon, je regarde. Oui. Non, en plus, je l'aime pas.
Oui, mais alors, justement, moi, je fais partie des personnes qui n'aiment pas du tout Liv Tyler et elle est un peu mono-expression, etc.
Ouais,
mais dans cette série, elle est impressionnante, quoi. Vraiment impressionnante de sobriété et de...
Son personnage évolue totalement entre le début et la fin de la série. Donc, on ne peut pas dire qu'il se passe rien dans cette série. C'est vraiment une... Voilà, alors, il faut passer les trois premiers épisodes. C'est-à-dire, les deux premiers sont un peu « Ok, effectivement, j'ai peur que ça devienne comme Lost. On voit pas trop où on va, etc. » Puis d'un seul coup, dans le troisième épisode... et c'est le cas à d'autres épisodes, d'autres moments clés comme ça assez répartis dans la saison. L'épisode part dans une histoire totalement différente. On prend un personnage et on s'intéresse qu'à ce personnage-là pendant tout l'épisode. Et à la fin, il y a un truc qui te choque et tu dis ah, et qui te permet de comprendre plein de trucs sur le personnage.
D'accord.
Et après, la série avance jusqu'à un season final où t'apprends pas mal de choses. Je vais pas le spoiler du coup parce que
Ok, je pense qu'il vaut mieux arrêter d'en parler là, mais
voilà.
D'accord.
Voilà. Et alors, les thématiques abordées sont vraiment très fortes, très poignantes. La mise en scène, la musique, les acteurs, les images, c'est vraiment. Alors, c'est une série exigeante. C'est une série exigeante. Il faut un peu s'accrocher. Il faut être plutôt de bonne humeur aussi quand on regarde la série parce que on peut déprimer assez facilement parce que. Voilà, ça parle de personnes qui ont perdu des êtres chers, parfois des enfants, parfois une famille tout entière aussi. Et puis d'autres personnes aussi qui n'ont perdu personne et qui se sentent totalement, qui n'ont rien à faire un peu. Il y a vraiment tous les points de vue possibles autour de cet événement tragique.
Comme tu disais, il y a un traitement de la série qui est un peu choral, hein, c'est-à-dire que des fois, on a plusieurs épisodes, comme tu dis, qui s'attardent sur un personnage pour comprendre pourquoi il a cette attitude trois ans après qu'est-ce qu'il a vécu au moment de, du 14 octobre, trois ans auparavant, en fait. Qu'est-ce que c'était sa vie avant et qu'est-ce qu'elle est la vie maintenant ?
Il y a des, pour tout simplement le personnage de la saison, du troisième épisode, les deux premiers épisodes, on comprend pas pourquoi il fait ça. On dit,
arrêtez d'en parler, je crois. Vous allez, ça va finir par spoiler, du coup.
On t'a donné envie, du coup.
Non, mais si, du coup. Enfin, vous m'avez donner une sorte d'espoir que je ne sois pas déçu, comme je l'ai été si souvent avant. Donc, je vais peut-être essayer. Je vais peut-être y jeter un coup d'œil.
Mais on ne peut pas attendre de réponse de cette série, puisque ça, c'est des réponses qui sont toutes personnelles sur les croyances, sur les... voilà. Donc, d'accord. On ne peut pas dire Dieu existe ou Dieu n'existe pas. Ou, voilà,
c'est très introspectif, en fait.
Voilà, ça te questionne toi, en fait. Ça te questionne toi, et c'est ça qui est intéressant et qui est intelligent dans cette série, du coup.
Ok. Bon, j'ai l'impression que je dois préparer un programme intéressant. merci donc, Vivian, pour ce conseil. On rappelle les conseils de cet épisode. C'est Marco Polo pour ma part sur Netflix. Saint Vincent, la fille qui fait des roulades en chantant. et The Leftovers, la série pour personnes exigeantes.
Voilà.
Bien résumé.
Oui, n'est-ce pas ? Marco Polo, comment j'aurais pu le résumer ?
Moi, je dis le Tudors version dans le monde mongol, mais là, d'accord. C'est un peu...
Le Tudors chez les Mongols, c'est ça.
Ouais.
très bien, écoutez, je vous remercie. Oh, et là, ça y est, c'est là qu'on peut pleurer. C'est la fin de cette session. On a donc passé 4 épisodes ensemble et vous ne serez pas là pour le prochain, mais qui sait, peut-être reviendrez-vous un jour pour nous souhaiter une bonne année, par exemple.
À l'an prochain,
avec plaisir.
Pour une prochaine session. Mais là, c'est donc terminé et il est d'autant plus important que vous nous disiez, que vous disiez à tous nos auditeurs où on peut vous retrouver sur Internet, puisque vous ne serez pas sur Positron au prochain épisode. Marion, on revient aux choses quand même, à l'ordre des choses avec Marion.
À l'ordre naturel des choses.
Voilà.
Alors moi, vous pouvez me retrouver sur les différents réseaux sociaux, mais je suis plus active sur Twitter. Et donc, mon pseudo, c'est Aizea Design. Sinon, j'ai un blog de musique sur lequel j'officie, qui a pour adresse wildsession.fr. Et bien sûr, pour ceux qui me connaissent, vous pouvez me retrouver sur la chaîne YouTube et le blog naotech.tv.
Magnifique. Voilà. Et Vivian, où te retrouve-t-on donc ?
Eh bien, moi, on me retrouve dans le podcast Saturne, sur saturne.fr, SATURN.fr. On s'approche d'ailleurs tout doucement de l'épisode 100, donc voilà, on a pas mal de...
Félicitations !
Ouais, hein, c'est pas mal.
Faut fêter les bougies, hein !
Ah bah on va souffler les bougies, ouais, on va souffler les bougies. Donc un podcast sur le cinéma et l'actualité des films en salle. Vous pouvez nous retrouver sur iTunes et sur SoundCloud pour nous écouter, puisque c'est un podcast audio aussi comme Positron. Et vous pouvez aussi me lire sur Twitter au pseudo Vivian avec un A et Roldo avec deux O. Vivian Roldo.
Très très bien. Merci donc à tous les deux d'avoir été là pour ces 3 épisodes de Positron. Pour ma part, c'est Note Patrick sur Twitter et sur Facebook. Je suis aussi sur Google Plus sous le nom de Patrick Béja. Vous pouvez retrouver les notes de l'émission et tout plein d'autres émissions plutôt cool sur frenchspin.fr. Et on sera de retour dans 15 jours avec une nouvelle fine équipe. En tout cas, je l'espère. À dans 15 jours. Ciao à tous.
Ciao.
À la prochaine. Bye bye.
Merci Patrick. Ciao. Don't walk, stop it, 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 don't walk,